Salut, c'est Soquette sur Radio Béton dans Say It Loud. Say It Loud, votre émission sur la chanson engagée, la chanson vénère, la chanson qui gueule. Et ce soir, on a une invitée que je vais laisser se présenter elle-même au vu de la difficulté que je vais rencontrer probablement à dire la deuxième moitié de ton nom de famille. Salut Marie.
Salut Soquette, je suis Marie Roussel Statniki.
Statniki, c'est ouais. Ça ok, bah, cette fois c'est bon. Et ben merci d'être parmi nous, je suis hyper contente de te recevoir ce soir. Et est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, ce sera mieux fait que si c'est moi finalement.
Je suis Marie Roussel Statniki, j'ai 43 ans. Et je suis déléguée aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes pour le compte de l'État, de la préfecture, en Indre-et-Loire.
Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous dire de manière plus étayée en quoi consistent tes missions, peut-être sur une base de day-to-day ?
Mes missions, c'est de conduire la politique publique, la politique nationale de promotion de l'égalité et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pour le compte de l'État, donc de manière déconcentrée en Indre-et-Loire, s'assurer que les lois sont respectées un peu, favoriser la création des dispositifs d'aide aux victimes, l'égalité professionnelle, avec des partenaires, un réseau. Voilà, c'est vraiment faire descendre tout ce qui se passe, tout ce qui est décidé national au local, avec les partenaires multiples, associations, institutions, hôpitaux, universités.
C'est très très large comme mission en fait.
C'est trop large pour une personne.
Oui, c'est ça, j'allais te demander si tu étais toute seule.
Je suis absolument toute seule. Parfois j'ai la chance d'avoir des stagiaires. Mais sinon, c'est une mission toute seule. Donc il faut prioriser, il faut savoir dire non. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Je ne travaille pas seule, j'ai plein de partenaires qui sont super sur le territoire. On travaille à plusieurs. Puis ce n'est pas moi vraiment qui fais. C'est les assos, les institutions, l'hôpital, l'université. C'est eux qui sont au plus près des personnes. Et puis moi, je peux aider à financer, développer un dispositif, les mettre en relation. Je fais beaucoup de travail de mise en relation et de faire éclore des projets grâce à des crédits que je peux avoir sur un budget annuel.
D'accord. Donc c'est un peu, t'es un peu catalyseur en fait des actions.
Exactement. J'espère.
Ouais. Catalyseur et parfois un peu flic s'il y a des choses qui sont pas respectées. T'as pas le temps en fait de regarder l'équité, la parité.
Non, j'ai pas le temps de tout faire. Disons que depuis 2019 et le Grenelle des violences conjugales, nos missions elles sont vraiment très orientées à la prise en charge des femmes victimes de violences, à la lutte contre les violences conjugales d'ailleurs essentiellement. Et en fait 80% de mon temps c'est quand même sur ce sujet. Et puis heureusement l'égalité c'est pas que l'affaire des délégués aux droits des femmes. Les entreprises s'en sont saisies, le conseil départemental, les institutions, que ce soit en interne ou vers les publics. Donc je pense qu'il y a quelques années, une dizaine d'années, mes prédécesseurs, prédécesseuses, elles étaient sur un peu tous les sujets. Et puis maintenant, on est quand même bien plutôt orienté sur l'animation, la coordination des acteurs et des actrices de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Ok. Donc... catalyseur, facilitatrice,
oui,
on va dire, de tout ça. Et puis peut-être conseil aussi pour des entreprises ou des privés, publics qui ont besoin aussi d'aide pour mettre en place tout ça.
De toute façon, je ne peux pas faire tout et je ne peux pas faire des formations auprès de tout le monde parce que je fais aussi pas mal de sensibilisation. Je les mets en relation avec des spécialistes. Telle entreprise a besoin d'une formation sur le recrutement égalitaire, je vais avoir les ressources. J'ai une vision panoramique des dispositifs et des ressources, des assos sur quoi elles travaillent, des partenaires qui sont prêts sur tel territoire, à Chinon, à Loche. Donc voilà, c'est vraiment de mettre en relation pour que les choses se fassent. Et moi, je donne juste l'impulsion, quoi.
Et est-ce que tu interviens aussi en milieu scolaire ?
Non.
Non.
Je peux pas. Enfin,
tu peux pas tout
non,
faire.
Non, je peux pas en fait. J'interviens. J'ai un protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences qui rassemble 80 partenaires. Et chaque année, il y a des nouvelles adhésions, surtout des collectivités qui viennent de plus en plus sur ces sujets pour se former, faire partie d'un réseau avec un secret partagé autour des victimes pour être pas seule sur les situations. Et donc là, je vais pas mal vers les élus ces dernières années. Mais pour les jeunes, en termes de prévention, il y a vraiment des spécialistes. Et puis, il y a 80 collèges et lycées.
Ouais.
Déjà, même les spécialistes, ils n'arrivent pas à tout faire. On a vraiment besoin de moyens supplémentaires. Donc non, moi j'essaie de ne pas aller sur la formation, d'abord parce qu'il y a des spécialistes et deuxièmement parce que ce n'est pas exactement mon cœur de mission.
Mmh. Oui, tu es vraiment là en coordinatrice. Et donc tu fais sur ce poste depuis 4 ans, tu m'as dit ?
Oui, ça fait 4 ans, depuis le 1er février.
D'accord. Et ma petite question, qu'est-ce qui t'a amené sur ce poste ?
Écoute, moi je suis fonctionnaire quasiment depuis le début de ma carrière professionnelle. Avant, je travaillais dans les services techniques d'une ville. Mmh. J'ai beaucoup géré des hommes, moi femme, de 26 ans, 45 hommes quasiment. Mmh. Après, on est passé par l'Égypte pendant 4 ans, en pleine période bouillante de révolution et qui questionne aussi pas mal hein, sur le droit des femmes quand on arrive de France et qu'on est un peu ethnocentré. Mmh. Et ensuite, en revenant d'Égypte, on s'est installé à Tours et là, j'ai pas trouvé de poste dans la fonction publique territoriale, donc j'ai postulé pour être. Assez vite directrice d'une association qui s'appelle Zigan Habitat,
ouais.
Qui bosse avec les gens du voyage, mmh. La gestion des lieux de vie, la médiation, l'accompagnement social, les projets d'habitat adaptés. Donc là, vers une population qui subit énormément d'inégalités, une population française ultra stigmatisée, en particulier en Indre-et-Loire, très nombreuses en Indre-et-Loire, très stigmatisées. Et donc ça a été ma première entrée en direct avec les inégalités, et aussi celles que vivent les femmes dans cette communauté-là parfois. Mmh. Et puis toujours, je pense, du féminisme en moi, quoi, depuis des années. Alors évidemment, depuis 4 ans encore plus, parce que j'ai chaussé les lunettes de genre, donc là, je vois tout à partir de ça. Mais
ça fait chier une fois qu'on les a mises, hein,
oui,
finalement.
Tu fais chier les autres, surtout.
Ouais. Ouais, mais c'est fatigant une fois qu'on les a chaussées, parce qu'on voit.
J'essaie de raison garder, mais c'est vrai que voilà, je les ai chaussées. Et avant, je pense que c'était en moi aussi. Alors, j'avais pas forcément d'engagement militant, mais c'était... un mot que j'utilisais déjà volontiers, le féminisme, parce qu'il est tabou pour certains, certaines, et qui pouvait se transmettre dans ma vie tous les jours et dans quoi j'ai grandi et ce que j'ai pu observer. Mais voilà, là, j'avais la chance, en fait, quand ce poste est paru, de me dire, waouh, tout ce qui m'intéresse, tout ce que je lisais ces dernières années, tout ce qui m'intéressait personnellement, il y avait un boulot où on pouvait faire ça toute la journée. Donc, c'était une chance. Et du coup, ça m'a permis de revenir dans la fonction publique, d'être du côté du service public, parce que c'est vraiment ça qui est moi mon but, quoi. C'est de travailler pour le public, pour les habitantes, pour les habitants. C'est ça que j'aime.
Eh bien, peut-être je te propose une première pause musicale. Tu nous as évoqué ton passage au Caire et tu as choisi une chanson en arabe. Ouais. Tu veux la présenter avant ou après ?
Je peux en dire un petit mot avant.
Ouais.
Alors, je ne parle pas arabe. Je me débrouillais au bout de quelques années sur quelques mots, mais je ne parle pas arabe. Cette chanson, c'est une chanson de Dalida, donc qui est égyptienne. On l'oublie parfois. Elle s'appelle Helwa Ya Baladi. Donc, je crois qu'on peut dire mon peuple est beau. Et en fait, nous, on arrivait juste après la révolution, mais on a connu toutes les autres mini-révolutions et coups d'État et autres. Et en fait, c'est une chanson qu'on entendait en permanence dans la rue, pendant les manifestations Place Tahrir. Une chanson vraiment... national, d'engouement national et révolutionnaire, en fait. Alors, les paroles, elles ne le sont pas forcément, mais c'est devenu une chanson sur le peuple égyptien, en fait, qui se sont appropriés vraiment, qui sont toujours aimés, mais qui se sont appropriés au moment des révolutions diverses. Donc, à chaque fois que je l'entends, ces 4 ans de ma vie en Égypte, au moment de toutes ces transformations politiques qui ont eu lieu, qu'on a suivies de près.
Eh bien, on va faire écouter ça. C'est parti. On écoute Dalida, et c'est pas tous les jours sur les ondes de Radio Béton. Vous êtes vous êtes toujours sur Radio Béton avec Soquette dans Say It Loud, votre émission sur la chanson engagée, la chanson vénère, la chanson qui gueule. On écoutait Dalida, Elwaya Badi, c'est ça ?
Baladi,
qui a été choisie par notre invitée Marie Roussel Stadnicki. Wouh ! Qui vient ce soir nous parler. On se disait pendant la pause à un mi-chemin entre son parcours personnel et son parcours professionnel. Et elle a choisi cette chanson qui lui rappelait son séjour au Caire où tu as été 4 ans, c'est ça ?
Oui.
Donc tu as suivi ton conjoint là-bas ?
Oui.
Et tu as pu travailler au Caire ?
Oui.
Qu'est-ce que tu as fait de beau ?
Je me suis, de toute façon, j'ai changé plein de fois de vie. Je me suis un peu adaptée à chaque fois au changement de territoire. Là-bas, j'ai enseigné. J'étais remplaçante au lycée français, mais surtout, j'ai eu une super expérience à l'université du Caire, à Giza, où j'enseignais l'histoire contemporaine à des étudiants en Sciences Po, lithique ou en éco, qui étaient jumelés avec la Sorbonne, donc en filière francophone.
Ok. Super. Et ça vient de toi, ton parcours universitaire ? Tiens, je t'ai pas demandé, en fait.
Un peu, mais c'est surtout... Enfin, j'ai fait... Moi, j'ai mes études, donc rien à voir, tu vas voir. j'ai un master recherche en histoire des arts.
Ok.
Que j'avais fait à Tours. Plutôt histoire de l'architecture.
Ah, à Tours, en plus.
Ouais, marrant. J'étais étudiante à Tours. Et ensuite, j'ai un master pro d'urbanisme à la Sorbonne. Donc,
ok.
Je suis urbaniste, en fait.
Ok.
Et après, j'ai passé le concours d'ingénieur et voilà.
Ok.
La fonction publique. Et histoire, parce que oui, je faisais option histoire, donc en histoire des arts. Et puis, les étudiants égyptiens de l'école publique égyptienne, du lycée public, ils ne font pas d'histoire internationale.
Ok.
Donc, ils ont leur histoire nationale.
Mm-hmm.
Et après, ils arrivent en Sciences Po ou en éco, et il faut qu'ils revoient toute l'histoire, au moins contemporaine, mondiale, quoi. Donc, l'ambition, ce n'était pas de tout voir, mais on essayait de partir de la révolution industrielle, un peu nos cours de terminale.
Ok.
Donc, j'avais quand même ça en tête. Révolution industrielle jusqu'au choc pétrolier. Bon, c'était quand même autour de l'université, c'était un peu un bastion islamiste avec énormément de manifestations, avec parfois de l'insécurité.
Mmh.
Donc j'ai pu, y a eu une bombe qui a explosé devant l'université un jour où j'étais en cours.
Ah ouais.
Donc ça a été un peu saccadé les cours. Il y avait des semaines entières où il y avait pas cours, etc. Donc j'ai pas jamais réussi à faire le programme en entier.
Mmh.
J'ai fait ça pendant 2 ans à peu près.
Ok, ça doit être intéressant pour quelqu'un qui a étudié l'histoire de l'architecture de se retrouver en Égypte. Ça doit être une sorte de
waouh. Bah oui,
c'est ça.
Tu passes des temps extrêmement anciens, mais c'était pas exactement mon truc, à l'architecture coloniale, à l'architecture bordélique.
Oui, c'est ça.
Et l'urbanisme informel et ouais.
Un urbanisme empirique.
Complètement, voilà. Mais aussi beaucoup de participation et de citoyennes en fait, de création de leur propre quartier en fait. En réponse à justement à un état défaillant.
Un manque de planification,
voilà,
sur ce dossier-là.
Ils font leur quartier eux-mêmes, ils ouvrent des bretelles sur l'autoroute eux-mêmes.
Ah ouais ?
Voilà,
pas
ça
mal.
C'était super intéressant à voir à ce moment-là aussi.
Et ta position de femme au Caire ? Après, j'imagine que le Caire, c'est un autre dossier que le reste de l'Égypte, mais...
Oui, alors bah, évidemment, au Caire, on n'a pas besoin d'être voilée parce qu'on me pose souvent la question.
Mmh.
Il n'y a qu'un pays, hein, c'est obligatoire d'être voilé pour une femme, c'est l'Iran. Donc après, on est habillé de manière un peu plus pudique, on fait attention à ça. Après, au Caire, c'est quand même très cosmopolite. Il y a des musulmans, mais il y a aussi 10% de coptes.
D'accord.
Donc, chrétiens, qui ne sont pas voilés. Donc je ne vais pas non plus poser un voile sur la réalité des choses. Il y a énormément de harcèlement, énormément. Puis ça a été souvent même rendu public au moment des manifestations, etc. On rappelle encore que la place de la femme, ce n'est pas dans la rue. Il y a eu aussi ce film sur les bus. Il y a énormément de harcèlement, qu'on soit voilé ou pas d'ailleurs. Donc bien sûr, j'en ai fait les frais,
ouais.
Surtout en tant qu'occidentale, même si je pouvais un peu me frayer un chemin, étant moi-même très brune.
Mm-hmm.
Pas forcément d'occidentale, mais... voilà, donc je l'ai vécu, je me suis pris aussi, bah, on peut être, toutes mes représentations, mes stéréotypes, on peut être voilé et être ultra autonome et ultra diplômé, enfin tout ça, en arrivant, ça fait du bien en fait de se confronter à autre chose et à d'autres discours et sortir un peu de ce qu'on entend et de ce qu'on peut penser quand on vient de France aussi.
Mmh. Mais ce serait intéressant qu'on puisse faire une émission sur ce sujet justement. Il y a quelques ouvrages qui sont sortis que j'ai repérés en librairie. Salut Fabienne, notre chère libraire de Saint-Pierre-des-Corps, mais qui était un peu daté en fait sur le féminisme et islam en fait.
Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais.
Et...
J'en ai quelques-uns, je les ai pas encore lus, j'avoue.
Mmh.
Mais oui, il y a des choses à dire. y a des choses à dire, même si après, c'est sûr que le voile vient... pour les raisons du voile, elles ne sont pas très féministes. Mais voilà, on peut être éventuellement contre le voile, mais pas contre les femmes voilées, déjà, premier problème, ici. Et puis, voilà, ça donne un autre angle de vue, en fait. Ça ouvre un peu les chakras sur ces sujets-là, mais je minimise pas le harcèlement de rue que toutes les femmes subissent très fortement là-bas.
J'imagine. Et c'est marrant, quand tu parles du voile, j'ai en tête une caricature que j'avais vue où tu vois une femme voilée qui croise une femme en bikini, et la femme en bikini a une bulle au-dessus de la tête, elle pense à ce que les hommes lui font faire, et la femme voilée, bah, elle a la même bulle au-dessus de sa tête que les hommes lui font faire. Et du coup, je sais pas, ce petit dessin m'avait fait vraiment déjà beaucoup marrer et beaucoup réfléchi sur le sujet. Et s'il y a des femmes qui ont envie de venir parler de ce sujet à l'émission, je serais hyper ravie d'avoir plein de sons de cloche, parce que je pense qu'effectivement, une vision trop eurocentrée ou franco-centrée nous empêche de capter l'ampleur de ce sujet.
Exactement. Donc, ouais. Très bon résumé, la petite vignette dont tu parles.
Oui, c'est très chouette, finalement. Est-ce que tu peux nous dire... Tout à l'heure, on parlait un petit peu musique avant de venir. Tu nous as choisi d'autres pièces, d'autres titres. Qu'est-ce que tu aimerais écouter maintenant ? Dans ce que tu as choisi... On a deux femmes, on a deux hommes. T'as fait ça bien.
Autant d'hommes.
Ouais, non, t'as mis trois femmes, deux hommes. Pas mal.
Ouais, c'est vrai. Ben, j'aime bien Kid, d'Eddie de Préto.
Eh ben, tu nous en parles après ou tu nous en parles avant ?
Je peux te dire deux mots avant.
Ouais.
J'ai choisi cette chanson parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ce sujet-là, de ce que ça fait, en fait, les masculinismes et la virilité toxique sur les garçons aussi. Parce qu'on va, évidemment, on parle d'abord des femmes, mais tous les garçons, les petits garçons qu'on grandit avec, à qui on demandait de performer leur genre alors qu'ils étaient mal à l'aise avec ça, avec la sensibilité, s'autoriser à pleurer, s'autoriser à avoir des sentiments, à les dire surtout. Voilà, c'est tout ce qu'il dit, lui, aussi, dans son homosexualité, je pense, sa différence, et comment c'était dur de grandir, et comment la famille proche peut faire du mal aussi par rapport à ça. Donc je trouve que cette chanson, en fait, elle est vraiment venue... moi, la première fois que j'ai entendu, elle m'a vraiment mise par terre, quoi. Sur ce qu'elle dit, c'est la première fois qu'on entendait un homme parler ça, je crois. Bah, je connais pas tout le répertoire de tous les chanteurs, mais je pense que c'est un des premiers à en avoir parlé.
Ok, eh ben c'est parti, Kid de Eddie de Préto.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent groguise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique.
Virilité abusive.
Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils raptaires et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité.
mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Et voilà, c'était Élie de Préto avec Kid, une chanson qui est choisie ce soir par notre invitée Marie-Roussel Stanicki, qui est, je vais y arriver une fois sur deux, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Attention, petit instant citoyen, la direction départementale dépend des services du préfet du département et non du conseil départemental, puisque c'est le même adjectif. Attention, toi tu travailles pour les services de l'État.
Tout à fait.
J'aime bien toujours ce petit point citoyen. Peut-être qu'un jour, on fera un petit point citoyen, compétences en obligatoire. Ça pourrait être sympa. Il faudrait peut-être plusieurs émissions, mais voilà. En tout cas, ton job ici, Marie, et depuis 4 ans, c'est de travailler sur les thématiques de l'égalité, sur la prévention aussi des violences faites aux femmes. Ouais. Et ce, dans plutôt une manière de coordonner sur le territoire et puis de conseil également un peu à tous. C'est bien résumé, ça va ?
Tout à fait.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Béton et on est toujours avec Marie. Alors, on a parlé un petit peu du CAIR, on a parlé de ce que tu faisais avant, on a parlé un peu de tes études et maintenant, j'avais un peu envie de diguer et j'ai une question un peu relou, mais... C'est quoi pour toi le féminisme ? C'est bien.
Déjà, je dis ça pour toutes mes copines qui disent elles se reconnaîtront qu'elles ne sont pas féministes, alors que quand je leur dis « mais t'es pour l'égalité entre les femmes et les hommes, donc t'es féministe. T'es pour l'égalité entre les femmes et les hommes, donc t'es féministe. » Il y a encore l'idée que féministe, c'est d'abattre les hommes ou d'être dans un combat permanent. Alors oui, le combat, tant qu'on aura une femme tous les 3 jours qui meurt, tant qu'on gagnera 15% de moins que les hommes... et tant qu'il y aura autant de violences, de continuum des violences faites aux femmes, on aura la nécessité d'être féministe, c'est-à-dire de se battre pour nos droits, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ça être féministe. Et c'est au quotidien, c'est pas seulement dans le travail, c'est avec ses copines, comment on élève ses enfants. Alors, on n'est jamais parfaite, on est toujours la mauvaise féministe de quelqu'un. Mais,
on est toujours la mauvaise militante de quelqu'un.
Exactement.
De toute façon.
Puis alors moi c'est militante institutionnelle, donc j'imagine que pour certains ou certaines c'est dur à entendre d'être féministe et de travailler pour l'État, voire pour le gouvernement actuellement. C'est vrai que ça peut poser question.
Après t'as pas choisi le gouvernement, enfin voilà. Rassure-nous parce que c'est sinon on a des idées hein, pour toi si
là
c'est
je
toi
peux rien dire,
choisis.
J'ai mon devoir de réserve, mais nous on incarne l'État profond, on va dire, c'est-à-dire on est là, on a nos missions, les gens changent, mais on, a priori, alors sauf extrême, nos missions, elles sont là, et moi, je n'ai pas à me plaindre puisque mes budgets ont plutôt augmenté ces dernières années. Mais voilà, c'est là le féminisme, c'est d'y penser, de mettre les lunettes de genre, comme on disait tout à l'heure, et d'agir au quotidien. Moi, j'élève 2 garçons, donc j'y pense tous les jours aussi dans ma vie perso.
Ouais, ça ne doit pas être très évident, ça, d'élever des petits garçons, parce qu'il y a l'éducation à la maison, mais il y a l'école.
Ah bah oui, ça vient se heurter en permanence. Et puis, il ne faut pas être trop relou non plus. Donc je fais attention parce qu'ils en ont un peu marre. Et puis je suis un peu parano, je vois des VSS partout. Donc oui, j'essaye de mettre des petites graines, de les emmener sur des actions, sur des manifestations, des événements. Mais je veux pas être trop lourde pour pas qu'ils fassent le rejet classique des idées du parent au moment de l'adolescence. Ça serait dommage.
Ouais, ce serait bête. Après, ouais, soit t'as une adhésion totale, soit t'as un rejet, effectivement. Mmh. C'est marrant quand tu dis faut pas être trop relou. Moi, j'essayais de pas être trop relou sur... l'environnement, les conditions de travail social. Tu vois, quand les enfants décident d'aller dans ce qu'on nomme restaurant, mais qu'on ne citera pas à l'antenne, et
oui,
peut-être tu as envie de leur dire « Non mais attends, on va chercher des docus là, sur les conditions de travail des gens là-bas, on va regarder. » Ce qui est très difficile à trouver d'ailleurs. Mais oui, ouais. Je comprends, pas être trop relou, mais faire passer le message. Et oui, même dans la manière d'éduquer, il y a beaucoup de travail. Mais même si tu avais des petites filles, en fait, c'est le même job.
Absolument. De les, voilà, c'est ça, c'est de se dire les élever au consentement, les élever à éviter de tomber dans les stéréotypes, même si à l'adolescence le genre, les stéréotypes performent le genre à fond quoi. Donc bon, Mais ils s'en sortent bien pour l'instant, ça va.
Ah, puis j'ai confiance.
Ils m'écoutent, alors je ne peux pas dire le contraire.
J'ai confiance en ces nouvelles générations qui vont nous faire exploser le genre. J'y crois.
Oui.
Comme ça, on sera tranquille. Et puis sur nous aussi, toutes les générations, finalement, je dis les jeunes générations.
On peut encore évoluer à 40, 50 ans.
Ouais,
se réveiller un peu, en fait. Tout le monde, j'en vois plein autour de moi. Des personnes dont ce n'était pas le sujet avant. Puis quand on leur explique pourquoi c'est encore un sujet, pourquoi on en a besoin, et après, ça met des petites graines un peu partout, quoi.
Ouais, c'est un peu... Oui, c'est une ouverture à tout âge autour de nous. Et quand tu dis « il ne faut pas se bagarrer », il y a quand même toujours ce moment où tu te dis « bon, est-ce que je dis quelque chose à ce moment précis ?»
Oui, moi, j'ai plus trop de patience, en fait. Hein? Parce que à partir du moment où j'ai commencé ce boulot et que je me présente en disant « je fais ça », bon, j'avais un peu aussi, sur les sujets gens du voyage avant, on pouvait aussi m'emmerder, mais il y a toujours... je peux être la féministe de service. Mm-hmm. Donc, j'ai beaucoup tenu le grappin, discuté, débattu les premières années. Et puis là, en fait, j'ai plus toujours la patience. Je le fais quand je sens, et je pense que c'est pour toutes les... Elle le dit bien, d'ailleurs, Salomé Sacquet, d'en résister, c'est pour tous les combats. C'est-à-dire qu'il faut y aller quand on sent qu'il y a un potentiel de changement, quand même.
Ouais.
Sinon, on va s'épuiser, en fait. Mm. Donc, je le fais dans ma pratique professionnelle. Et le week-end, dans la vie perso, je le fais sur des personnes qui sont déjà un petit peu ouvertes, parce que le vieil oncle de 80 ans, je laisse tomber.
Ouais, tu te dis que c'est trop tard.
Oui.
Ouais. Moi, j'ai parfois aussi laissé tomber sur des sujets tout simples comme l'égalité des salaires. Et au bout d'un temps, tu te dis que, bah, voilà, c'est comme ça. Après, ce qui est intéressant aussi dans cet échange, et on parlait tout à l'heure, pendant la pause ou avant qu'on commence l'émission, on parlait de la soirée Ceci n'est pas un barbecue qui est organisée par ma compagnie où tu es venue à chaque fois. Et le fait de rassembler autant de femmes autour du sujet du féminisme, tu t'aperçois aussi que chacune a sa propre vision aussi du féminisme.
Sans doute.
Et ça, tu dois le rencontrer aussi chaque jour, même avec des personnes alliées, de voir quand même des volets, parfois aussi générationnels.
Tout à fait, il y a des volets générationnels. Et puis, bon, mais quand même, je trouve que, en tout cas, dans mes partenaires du quotidien, là, j'étais avec 30 partenaires cet après-midi sur la question des femmes victimes étrangères et tous les freins qu'elles rencontrent, x10 par rapport à une femme victime française. On est quand même tous, globalement, on a un vrai partage de valeurs. J'ai pas d'inquiétude sur les valeurs des partenaires. Grâce à ce réseau qui existe depuis longtemps, qui a été constitué par ma prédécesseur. On a un partage de valeurs. Alors après, voilà, il y en a qui vont dire elles sont pas féministes, et pourtant toute la journée, 10 heures par jour, elles vont aider vraiment des femmes victimes. Mmh. Et à rendre leur autonomie, à faire quand même un monde meilleur pour les femmes. Donc en fait, elles le sont.
Ouais.
Voilà. Donc on va pas rentrer sur la théorie, sur le pourquoi, de quoi, pourquoi, comment. Il y a les actes aussi.
Ouais, il y a un acte de solidarité et là pour le coup de sororité.
Oui,
et pas forcément conscientiser sur j'ai l'impression que le truc qui est le moins conscientisé c'est la domination patriarcale.
Oui.
Parce que si tu t'en rends compte, tu te rends compte aussi que tu t'es fait avoir pendant plein de temps et ça fout
mais
en colère.
Tout à fait. Et puis il y a plein de personnes qui supportent pas le statut de victime des femmes. Enfin, une femme n'est pas victime et puis il y a l'idée ben moi j'ai bien réussi donc des fois c'est aussi sortir de soi. Nous, on a l'impression qu'on a été plutôt protégés parce que dans un milieu social ou professionnel, où finalement, il y a quand même des milieux plus protégés, et donc elles ne se sentent pas concernées aussi. Et c'est penser en dehors de soi, comme d'habitude.
Mmh. Ouais, puis pas vraiment penser pour les autres. Mais il y a ce truc de fierté. Et puis, c'est toujours cette problématique de est-ce qu'on tape sur les hommes ou pas.
Oui, aussi.
Voilà, mais bon.
Clairement, on a besoin d'eux comme alliés. On ne va pas y arriver sans eux, donc on ne peut pas taper dessus. Donc, not all men, oui, mais c'est quand même... Tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais tous les violeurs sont des hommes. Donc, il y a quand même un problème structurel. Ce n'est pas ton voisin, ton frère, ton père, mais ça peut être ton voisin, ton frère, ton père.
Ouais.
Donc, c'est travailler de manière structurelle, dans la prévention, dans l'éducation, pour que ça change quand même.
Vaste mission.
Oui.
On va se refaire une petite pause musicale avant que je t'interroge un peu, parce que c'est quand même intriguant. Tu as travaillé avec les communautés des gens du voyage. J'ai quelques petites questions là-dessus aussi. Tu veux écouter quoi ? Est-ce qu'après tout ça, ce serait pas l'heure d'un petit Anne Sylvestre finalement ?
Oui, un petit Anne Sylvestre.
Ça passe toujours.
Beaucoup de chansons féministes. Et puis, alors, celle-là, je l'ai découvert assez tardivement. Et en fait, j'aime bien sa joie, j'aime bien sa fin. ont finalement dit merde aux hommes maltraitants. Alors, on ne parle pas de violence conjugale, hein, mais maltraitants, hein, infidèles. Et puis finalement, elles partent toutes ensemble à la fin dans le sud. J'adore, je la trouve très jouissive cette fin. C'est pour ça que j'aime bien cette chanson.
C'est parti, petit bonhomme.
Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois, je m'en étonne encore maintenant. Au début, tout feu, tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait « Tu es belle » après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Yvonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit. Le mari de Marie-Yvonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marie-Yvonne est un vrai boudin. Toujours elle me cramponne, ça ne dit rien. La la, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marie-Yvonne est très mignonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit. Le mari de Marie-Yvonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marie-Yvonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Yvonne m'apprend ce midi. Sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. La la la, petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma mère est une gorgone, il avait dit. Le mari de Marie-Yvonne a pu se recaser. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début, tout feu, tout braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Tu es belle après comme avant. Il descendra la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Yvonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne, dans le midi. Si longtemps ça recommence, on va se retrouver. Toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser.
Effectivement, donc c'était Petit Bonhomme d'Anne Sylvestre, c'est plutôt ultra marron comme texte. Très très sympathique, très piquant et très vrai.
Mais oui, sans doute.
Merci, en tout cas, je connaissais pas. C'est aussi hallucinant, bon, rien à voir sur le texte, mais musicalement, toujours ces productions, j'imagine que ça date de 70, 80.
Oui, c'est 70.
Ouais. Où t'as tout un staff de super musiciens derrière, super arrangements, tout nickel. Et aujourd'hui, bah, on n'a plus de sous pour faire ça. Oui. Voilà, donc c'est toujours chouette à entendre. Merci pour cette découverte. J'avais une question avant de switcher de sujet. Je m'aperçois en écoutant la chanson que je t'avais pas demandé. Donc tu nous as dit que tu étais là. On a parlé effectivement que tu travaillais pour les services de l'État et que tu travaillais pour l'État de fond, pour l'État de cœur, pas forcément pour le gouvernement qui est ultra changeant en plus ces dernières années. Je sais même pas qui est ton ou ta ministre de référence.
Aurore Berger.
Ah oui, pardon. Et je voulais savoir quelles étaient justement les mesures principales qui sont mises en valeur par le gouvernement aujourd'hui dans tes missions.
Je te disais, c'est vraiment la prise en charge des violences et l'aide au départ.
D'accord.
L'aide au départ du domicile. Là, on va mettre en place, il y a déjà eu des territoires qui ont commencé, un pacte nouveau départ pour s'assurer que les victimes de violences conjugales, on sait qu'en moyenne, elles font 5-6 allers-retours avant le départ définitif du domicile. C'est super dur de partir. Et il y a plein de portes à ouvrir. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un parcours de référence avec une personne qui serait à la CAF, au conseil départemental, et qui, ça serait la personne qui fait les liens vers les différents besoins, en fait, pour ne pas perdre la personne, parce qu'on lui occasionne trop de démarches. Ils n'ont pas encore. Donc, en Indre-et-Loire, on est prêt, mais on n'a pas encore mis en place ce pacte nouveau départ. En revanche, on a déjà, comme tout le territoire, des aides universelles d'urgence au départ, c'est-à-dire, il y a des contrainte, hein, mais c'est une aide financière pour aider au départ qui est versée aux femmes par la CAF. Donc on est vraiment sur ça. On est vraiment aussi sur des nouvelles mesures de protection qui se développent, qui se déploient, comme les téléphones grave danger. Voilà, donc ça c'est des dispositifs gérés par les parquets avec France Victime 37. La protection.
Ouais, excuse-moi, je te coupe. Tu parlais de portes à ouvrir pour aider les femmes à quitter le foyer. Ouais. Quels sont les freins premiers? J'imagine qu'il y a l'argent. Là, je t'entends dire l'argent est versé par la CAF. J'imagine qu'il y a des femmes qui n'ont pas de compte personnel à elles.
Oui, bah la CAF peut aider à faire ça. Il y a droit au compte. La Banque de France aide aussi pour ça.
D'accord.
En fait, le premier frein, ça va être le frein psychologique. L'emprise qui est mise en place. Il n'y a pas de violence conjugale sans emprise. Donc où la personne, elle n'a plus exactement des réflexes et son autonomie. Donc c'est très dur, quand tu choisis même pas le programme de télé que tu vas regarder ou quand tu te fais hurler dessus toute la journée, partir, c'est un événement, c'est un acte ultra courageux, ultra difficile. Donc il y a déjà levé cette emprise, donc il y a des associations qui travaillent pour lever cette emprise, préparer au départ, notamment le CIDFF, Centre d'information aux droits des femmes et des familles. Et puis il y a bien sûr l'argent. Quand on n'a parfois pas d'autonomie parce qu'on ne travaillait plus, il y a de trouver un hébergement ou un logement. Donc il faut savoir qu'ici on peut être hébergé en urgence, on est prioritaire. Si on est femme victime, c'est du déclaratif. On a aussi des protocoles relogement dans le parc social avec les bailleurs prioritaires pour les femmes victimes. On reloge 50-60 femmes par an.
Oui, donc c'est des relogements d'urgence, mais aussi sur la durée.
Oui, il y a les deux. Exactement. Et donc tout ça, en fait, c'est faut savoir que ça existe. Donc c'est aussi mes missions de rendre lisible tout ça, et aussi que les travailleurs sociaux, qui sont très souvent les premiers à avoir l'information, pas toujours, mais très souvent, ou les médecins puissent se repérer dans tous ces dispositifs. Le territoire est super riche, on a vraiment beaucoup de dispositifs, mais voilà, ça peut être complexe. Donc l'idée, c'est de ce qu'on va faire cette année, on fait une refonte du protocole, d'avoir de plus d'outils lisibles. Et plus numérique aussi, parce que le protocole, il date un peu. Donc, on a un peu changé la manière de présenter les choses. Donc, voilà, je dirais que c'est ces priorités-là, mais aussi les centres, comment dire, les dispositifs pluridisciplinaires, comme la Maison des Femmes, où tu viens, tu as du soin, tu as de l'accompagnement social, tu as de l'accompagnement psy, tu as des permanences juridiques, tu peux même déposer plainte, tu as des gendarmes et des policiers qui font des permanences. Voilà, essayer aussi de faciliter, en fait, la vie de ces personnes, parce qu'on sait que c'est hyper fragile le départ. Donc il faut être super réactif. Et voilà, c'est vrai que tu te retrouves hébergé par le 115 à l'hôtel au départ, même si après tu peux potentiellement avoir une meilleure place. Bah, ça, parfois, t'es perdu, t'es tout seul, t'es isolé, c'est inconfortable. T'es avec des personnes SDF autour de toi. Bah, c'est dur de rester et tu peux être aussi tenté de revenir chez toi. Alors, c'est pas que des questions de confort, en fait, c'est des questions d'être perdu, d'être isolé.
Ouais, de confort psychologique.
Oui,
plutôt.
Aussi, voilà, ouais. Ça, même si on a l'impression que c'est pire chez toi, mais c'est des choses qui sont difficiles à comprendre, mais on forme les professionnels pour qu'ils comprennent ça. La notion d'emprise, l'aide au départ, le fait de reculer la parole la première fois, qu'est-ce qu'on en fait? On dit pas pourquoi t'es pas parti depuis tant d'années, etc. Voilà, comprendre les mécanismes qui se jouent pour aider mieux, en fait.
Si on a des auditeuristes aujourd'hui qui sont concernés, soit parce que c'est des personnes qui sont victimes de violences, soit parce que c'est des soignants, des aidants, des proches, est-ce qu'il y a un site, un numéro, quelque chose qu'on peut...
En fait, il y a le 3919, qui est un numéro national, 24-24, 7/7.
3919.
J'ai dit autre chose ?
Non, c'est pour redire.
Ouf. Ouais. 3919. Et donc, c'est un numéro qui est renseigné localement, en fait. Donc, il va y avoir les différentes structures. Après, il n'y a pas de parcours, mais je dirais que la Maison des Femmes, le CIDFF, France Victime, un des trois, ils se connaissent très bien, ils travaillent entre eux, ils ont leur spécialité, leur spécificité, mais c'est une entrée C'est pas une entrée dans l'urgence, hein. L'urgence c'est le 17 ou le 115. Mmh. Mais quand on a besoin d'aide, qu'on veut commencer à parler de quelque chose, voilà, c'est les trois entrées. Maison des femmes du CHRU Bretonneau, le CIDFF, France Victime 37. Les trois, c'est des spécialistes. Voilà.
Ok, donc urgence, c'est le 17 ou le 115.
Ouais, enfin urgence pour l'intégrité physique, c'est évidemment le 17, où on va aux urgences de l'hôpital. Et puis le 115, c'est pour avoir un hébergement en urgence, parce qu'on est sorti de chez soi, même avec quasiment rien, et on veut être hébergé.
Ok. Et pour du plus long terme, tu l'as dit. Peut-être qu'on remettra tout ça sur le compte de l'émission, ça peut être chouette. Et puis d'avoir aussi des ressources, des lectures. Je trouve que même si on n'est pas concerné, c'est toujours chouette d'avoir toutes ces informations-là, parce qu'on est toujours amené à croiser des gens qui sont concernés.
C'est une femme sur 10, donc on a forcément eu des copines ou des copains à qui c'est arrivé. Mm-hmm. Donc en tant que témoin, c'est important aussi. En tant que professionnel, oser poser la question. Alors pas « êtes-vous femme victime de violence ?» mais « comment ça se passe à la maison ? » Est-ce qu'il y a un truc dont tu voudrais parler ? T'es bien dans ta relation ? Des questions un peu périphériques comme ça, qui peuvent dévoiler des choses. Ça peut arriver à tout le monde, ça.
Mmh. Ouais, ça peut arriver à tout le monde. Et ben, peut-être qu'on se refait une petite pause musicale avant que je te pose des questions sur un tout autre sujet. Qu'est-ce que tu veux ? On a deux choix. Peut-être Marianne, et puis après, comme ça, on fait.
Marianne Faithfull, donc ça, c'est The Ballad of Lucy Jordan. Mmh. Donc ça, je l'ai choisi parce que c'est une musique de la BO de Thelma & Louise, qui est mon film fondateur, que j'ai vu super tôt, genre en CM2 ou 6e.
Waouh !
Trop tôt, sans doute,
ouais.
Parce que ma mère avait décidé que les paysages étaient super beaux, fallait qu'elle nous le montre. Okay. Sauf qu'il y a quand même une scène de viol, tentative de viol, une scène de sexe sauvage avec Brad Pitt. Mais en fait, c'est pas ça qui m'avait marqué. C'est vraiment les filles, quoi. Les deux filles qui sont incroyables, leur amitié. Les décisions qu'elles prennent, comment elles deviennent fortes et autonomes en quelques jours, et puis tout le mal que leur ont fait les garçons, mais aussi des hommes ressources, des hommes bons, même le policier dans le film. Je dis ça parce que je l'ai revu il y a une semaine, donc c'est tout frais là.
Ah, je vais le re-regarder, ça me donne envie.
Il est incroyable, t'entendre. Il est vraiment incroyable, il n'a pas vieilli, c'est un des premiers, enfin, c'est pas le premier film féministe, il y en a plein, il y a des anciens, mais quand même dans les années 90, un film où les personnages principaux sont des femmes, des héroïnes. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, c'est vraiment un grand, grand film. Et cette musique là elle parle un peu du film, en fait, parce que même si elle a été écrite bien avant, c'est sur l'histoire d'une fille fin de trentaine qui s'émancipe, en fait, de son couple pas du tout égalitaire, de comment elle s'est fondue dans son rôle de femme de maison, etc. Enfin, j'ai pas traduit tout le texte, mais c'est ça, et c'est l'histoire de Thelma dans Thelma & Louise aussi. Donc ça, voilà, c'est l'histoire de, il n'y a pas d'âge pour s'émanciper.
Eh ben, c'est parti, Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.
She realized Paris in a sports car with the warm wind in her head. So she let the phone keep ringing as she sat there softly singing. Gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand. Long white car that waited past the crowd. At the age of 37, she knew she'd found forever as she rode along through Paris with a warm wind in her hair.
Et coucou, vous êtes toujours avec Soquette sur Radio Béton dans Say It Loud, votre émission sur la chanson engagée, la chanson vénère, la chanson qui gueule. Et on est toujours avec Marie Roussel Statnicki, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, on va dire pour les services de l'État dans le département, on va raccourcir cet acronyme. Merci beaucoup d'être là Marie, tu nous as fait découvrir des chouettes chansons, j'ai bien aimé Petit Bonhomme tout à l'heure. Là je suis moins fan du côté 80, mais le texte est chouette. Voilà, après l'esthétique passant derrière. Tu nous as parlé de ce que tu faisais dans ton taf, de pourquoi t'en arrivais là, de ta vision du féminisme. Tu nous as parlé de ton séjour au Caire. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'il nous reste plus que 9 petites minutes, ce qui m'intéresse aussi, parce qu'on était comme sur un sujet sur les discriminations. Tu as travaillé beaucoup avec la communauté des gens du voyage, qui eux-mêmes sont victimes beaucoup de discriminations. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ?
Alors moi, quand je suis arrivée sur ces missions-là, c'était vraiment une population que je ne connaissais pas du tout. Mais en même temps, je n'avais pas d'idée reçue, parce que je venais d'un territoire où il y avait très peu de voyageurs, le Berry.
Donc, oh là, salutations au Berry.
Salutations. Donc je ne connaissais pas du tout. Et puis très vite, j'ai vu qu'il y avait un système, un mode de vie, un mode d'habiter très différent. Et qui étaient très relégués, leur lieu de vie, à l'extérieur des villes, dans des zones où il y a aussi les décharges. Si tu cherches une aire d'accueil, cherche la décharge, tu la trouves. Cherche la station d'épuration, tu trouves l'aire d'accueil. Voilà, donc ça a beaucoup questionné ma pratique aussi, mes études d'urbanisme, hein, sur l'habitat, la ville. Et puis, donc moi, je n'étais pas en direct avec les personnes, j'étais directrice de l'asso. Bon, ça arrivait, bien sûr, mais je gérais plutôt les gens qui sont finalement gestionnaires des aires d'accueil. Bon, c'est un super boulot, mais très difficile. Ils font payer, en fait, les personnes chaque jour ce qu'ils consomment. Il faut savoir qu'ils payent sur les aires d'accueil. Mmh. Ils payent leur eau, leur électricité et l'emplacement, comme un camping, en fait.
D'accord.
Ça, c'est assez peu su. On pense qu'ils sont là gratuitement.
Moi, je pensais que c'était les fluides à payer, mais que l'emplacement était gratuit.
Non, l'emplacement, il est payant avec des prix très différents selon les endroits. Enfin, même si en Indre-et-Loire, c'est à peu près pareil. Et puis, on avait aussi des projets d'habitat adapté, c'est-à-dire comment on fait pour faire de l'habitat social, mais adapté à la caravane, au mode de vie, avec la possibilité de mettre sa caravane sur son terrain, d'avoir une seule pièce qui est une pièce de vie, mais on dort dans la caravane. Et puis, on a fait beaucoup de médiation autour des grands passages l'été. C'est vrai que ça peut être très difficile pour les élus. C'est ma première entrée avec la préfecture, en fait.
Ah.
Force de l'ordre et compagnie, quand il y a des arrivées de 150-200 caravanes non prévues et qui arrivent, ou même 80 caravanes qui arrivent sur un stade de foot d'une commune, c'est super dur pour l'élu. Ça se passe pas bien. Bon, voilà. Donc, c'est essayer de... En fait, cette asso, ce qui est super, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des petits tirés, des petits pointillés entre les institutions, l'école, les services publics, les forces de l'ordre et les voyageurs, où il y a beaucoup, en fait, d'altérité et d'incompréhension des deux côtés, avec des représentations d'une autre, mais aussi des représentations de leur côté, parfois un rapport compliqué à la scolarisation, pas partout, hein, mais voilà. Et surtout, expliquer que ce que j'ai compris, moi, au bout de 4 ans, c'est que les voyageurs, c'est pas une population unique et figée. T'as des voyageurs forains, t'as des voyageurs qui sont sur des terrains privés, t'as des voyageurs très précaires, c'est évidemment ceux qu'on voyait le plus, qui sont sur les aires d'accueil parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Qui est une sorte de, voilà, de logement social pour les voyageurs. Donc, j'ai découvert, ça a été passionnant, mais ça a été très dur aussi. Très dur parce qu'on est sur un territoire où le dialogue et l'avancée des projets pour cette population est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de xénophobie. Des élus voilà, qui n'ont pas envie de faire avancer les choses. Donc, l'État, ils ont des obligations, les communautés de communes, de construire X aires d'accueil, X terrains familiaux. C'est pas toujours respecté. Ça vient, en général, s'il y a des projets, ben, il suffit d'un été où il y a des grands passages un peu rudes. Tout est remis en question, tout est mélangé. Politiquement, c'est pas porteur. Là, je pense à Ballon-Miré, qui a un projet d'habitat adapté pour les gens du voyage ou de terrains familiaux. Je vais pas faire la différence maintenant, mais ben, y a Valeurs Actuelles qui a fait un article là-dessus en disant l'argent public va pour les voyageurs. En fait, ce que j'ai vu au bout de 3-4 ans, c'est qu'on se permettait encore de dire des choses ultra xénophobes sur les voyageurs qu'on n'aurait pas dit sur les Arabes. Vous remplaciez le mot et c'était inacceptable dans des réunions d'élus, dans des réunions publiques.
Ah oui.
Donc en fait, je me suis un peu fatiguée aussi sur ce sujet parce que j'ai pas, malgré une équipe formidable, des travailleurs sociaux super engagés, des gestionnaires, etc., parce que c'est difficile de faire changer les choses en Indre-et-Loire. Heureusement, on travaillait ailleurs parfois, on a travaillé pour la mairie de Paris même, parce qu'il y a des aires d'accueil dans le bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes. On faisait beaucoup de conseils aussi.
C'était une asso nationale ?
Non, c'est une asso locale, locale, qui dépend du groupe Solia, qui est un groupe national. Okay. Solia, en fait, son ADN, c'est l'insertion par l'habitat.
Okay.
Et donc, ils ont créé dans les années 90, je crois, l'association Digan Habitat pour répondre à un besoin des élus de prendre en charge la question de l'habitat, de la résidence, des gens du voyage. Elle est née du terrain, cette asso, des besoins du terrain local. Mais il y en a d'autres sous d'autres noms dans d'autres territoires, en fait.
Ok.
Sur tout l'axe ligérien, il y a énormément de voyageurs, c'est historique. Et voilà, c'est vraiment le petit point d'intermédiation entre le droit commun et les voyageurs, cet asso. C'est très beau, mais c'est très dur.
Peut-être qu'il faudra que je les invite un jour, ce serait intéressant.
C'est super.
Bah ouais, parce que je trouve que quand t'es comme ça dehors, c'est toujours très difficile de connaître cette population, c'est de hyper, rencontrer.
Hyper peu connu, ouais.
Ouais, j'avais eu l'occasion de relire un mémoire de thèse d'une copine qui a travaillé dans le Bordelais avec des populations de voyageurs, où j'avais, tu vois, une petite fenêtre ouverte, mais t'as vraiment envie de mieux connaître cette population à qui on a dérobé plein de choses culturellement.
Oui, puis qui ont été déportés et qui ont été maintenus dans des camps français jusqu'en 47. Ça explique aussi la peur de nous, quoi, de ce qu'on représente, nous, citoyens français non itinérants.
Eh ouais, c'est vrai, ça. Eh bien, sur cette parole, est-ce que tu veux dire une dernière chose? Parce qu'en fait, on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est triste, c'est passé hyper vite, j'ai l'impression que ça a fait 8.
Non, je veux faire un petit message perso, je peux?
Bien sûr.
Je veux bien embrasser les hommes de ma vie, Romane, Joseph et Achille.
Bah, salut, et puis... quels deux doivent aller se coucher maintenant? Il est 21h.
Joseph et Achille.
Ouais, on fait ça des fois aussi. On envoie les enfants au lit sur Radio Béton. Et ben, merci beaucoup à toi, Marie. On termine l'émission avec Goran Bregovic.
Super.
Eder Lézy. Et merci beaucoup à tous de nous écouter. Merci encore à toi d'être venu, d'avoir pris ce temps-là. Et puis, on vous mettra des infos, notamment les infos très importantes de contact en temps de difficulté. On mettra ça sur le compte Facebook.
Merci,
à très bientôt. Merci beaucoup à toi.